Chapitre 19. Todd obtint son diplôme de justesse, peut-être justement à cause de sa mauvaise note à l'examen de trigo qu'il révisait le soir où Doo Sander avait eu sa crise cardiaque. Elle avait fait baisser sa moyenne, jusqu'à 16, un point en dessous de A-. Une semaine après, les Bowden rendirent visite à M. Denker, à l'hôpital de Santo Donato. Todd se tortilla pendant un quart d'heure de banalité, de merci, de « comment vous sentez-vous ?» et fut soulagé quand l'homme du lit voisin lui demanda de venir une minute. « Pardonnez-moi, » dit l'homme en s'excusant. Il était pris dans un énorme plâtre et relié, pour une raison obscure, à un système de câbles et de poulies.
« Je m'appelle Maurice Seisel. Je me suis brisé le dos. »
« C'est dommage, » dit gravement Todd.
« Oui, dommage, comme tu dis. Ce garçon a le génie de l'euphémisme. »
Todd voulut s'excuser, mais l'autre leva la main avec un léger sourire. Il était pâle, les traits tirés, comme n'importe quel vieillard hospitalisé qui voit son avenir immédiat bouleversé, et pas dans le bon sens. Doo Sander et lui, pensa Todd, avaient au moins cela en commun.
« Inutile, » dit Maurice. « Inutile de répondre à des propos grossiers. Vous êtes pour moi un inconnu. Dois-je infliger mes problèmes à un inconnu ?»«
Nul homme n'est une île, à lui seul complet, » commença Todd, et Maurice se mit à rire.
« Tiens, une citation. Malin, ce gosse. Votre ami, là, il est mal en point ?»«
Oh, les médecins disent qu'il s'en tire bien, étant donné son âge. Il a 80 ans. »
« Si vieux que ça !» s'exclama Maurice. « Il ne me parle pas beaucoup, vous savez. Mais d'après ce qu'il dit, j'ai compris qu'il était naturalisé. Comme moi. Je suis polonais, vous savez. À l'origine, je veux dire. De Radom. »«
Oh !» dit poliment Todd.
« Oui. Vous savez comment on appelle une bouche d'égout à Radom ?»«
Non, » dit Todd en souriant.
« Un McDonald's !»
Il éclata de rire. Todd l'imita. Doo Sander leur lança un coup d'œil, surpris par le bruit, et fronça légèrement les sourcils. Puis Monica lui dit quelque chose et il se tourna vers elle.
« Votre ami est-il effectivement naturalisé ?»«
Oh oui, il vient d'Allemagne. Dessen, vous connaissez ?»«
Non, mais je ne suis allé qu'une seule fois en Allemagne. Je me demande s'il a fait la guerre. »«
Je ne pourrais pas vous dire. »
Todd avait pris un regard distant.
Non ? Enfin, c'est sans importance. Il y a bien longtemps, cette guerre. Dans 3 ans, il y aura des gens à qui la Constitution permettra d'être élu président. Président ! Et qui n'étaient même pas nés à la fin de la guerre. Pour eux, il ne doit guère y avoir de différence entre le miracle de Dunkerque et Hannibal franchissant les Alpes avec ses éléphants.
Avez-vous fait la guerre ?
Demanda Todd.
D'une certaine façon, oui. Tu es un brave garçon de rendre visite à un vieux bonhomme comme lui. Deux vieux bons hommes, en me comptant.
Todd eut un sourire modeste.
Maintenant je suis fatigué, dit Maurice. Je vais peut-être dormir.
J'espère que vous irez mieux bientôt, dit Todd.
Maurice hocha la tête, sourit et ferma les yeux. Todd revint auprès de l'autre lit. Ses parents s'apprêtaient à s'en aller. Son père regardait sans cesse sa montre en s'exclamant avec une fausse gaieté « Comme il est tard !» Mais Maurice Heisel ne dormait pas, et il ne s'endormit pas avant longtemps. 2 jours plus tard, Todd revint, mais seul. Maurice Heisel, cette fois, muré dans son plâtre, dormait profondément.
« Tu as bien fait !» dit calmement Doo Sander. « Es-tu revenu à la maison ensuite ?»«
Oui. » J'ai remis la boîte en place et j'ai brûlé cette foutue lettre. Je ne pense pas que personne s'y soit vraiment intéressé, mais j'avais peur, je sais pas. »
Il haussa les épaules, incapable de dire à Doo Sander qu'il avait une peur presque superstitieuse de la lettre. Peur que quelqu'un se promène dans la maison, quelqu'un sachant lire l'allemand, quelqu'un capable de remarquer des références dépassées depuis 10 ou 20 ans.
« La prochaine fois que tu viens, passe-moi en dose de quoi boire, » dit le vieil homme.
Je m'aperçois que les cigarettes me manquent pas, mais...
Je reviendrai pas, dit Todd d'un ton ferme. Plus jamais. C'est fini. Nous sommes quittes.
Quittes.
Toussander croisa les mains sur sa poitrine et sourit. Ce n'était pas un sourire aimable, mais c'était peut-être le mieux qu'il pouvait faire.
Je pensais bien que ça devait arriver. Ils vont me laisser sortir de cimetière la semaine prochaine. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont promis. Le docteur dit que ma carcasse risque de durer encore quelques années. Je lui ai demandé combien, et il a ri. C'est tout. À mon avis, cela signifie pas plus de 3. Probablement pas plus de 2. Qui sait? Je leur réserve peut-être une surprise.
Todd ne dit rien.
Mais entre nous, gamin, j'ai presque abandonné l'espoir de voir le prochain siècle.
Je voulais vous demander quelque chose, dit Todd en le fixant du regard. Je voulais vous poser une question sur quelque chose que vous avez dit un jour.
Todd jeta un coup d'œil à l'homme dans le lit d'à côté et rapprocha sa chaise de Toussander. Il pouvait sentir son odeur, la même que celle des antiquités égyptiennes du musée.
Demande.
Ce Clodo, vous avez parlé de mon expérience. Une expérience directe. Qu'est-ce que ça voulait dire?
Le sourire du vieil homme s'élargit légèrement.
Je lis les journaux, gamin. Les vieux lisent toujours les journaux, mais pas de la même façon que les jeunes. On sait que les vautours se rassemblent en bout de piste de certains aéroports d'Amérique du Sud quand les vents deviennent dangereux. Tu sais cela? C'est comme ça qu'un vieux lit les journaux. Il y a un mois, j'ai vu une histoire dans le journal du dimanche. Pas en première page. Personne ne s'intéresse assez aux clochards et aux ivrognes pour les mettre en première page. Mais c'était l'article principal de la rubrique Société. À Santo Donato, la chasse aux déshérités est ouverte. C'était le titre. Grossier. Du journalisme de bas étage. Vous, les Américains, vous en êtes spécialistes.
Todd avait serré les poings, dissimulant ses ongles massacrés. Il ne lisait jamais les journaux du dimanche. Il avait mieux à faire. Après chacune de ses aventures, bien sûr, il avait surveillé les journaux pendant au moins une semaine, mais aucun de ses clochards n'avait dépassé la page 3. L'idée que quelqu'un avait relié ses histoires derrière son dos le mettait en rage.
L'article mentionnait plusieurs meurtres d'une extrême brutalité. À coups de poignard, de gourdin. Brutalité de sous-homme, écrivait le journaliste. Mais tu les connais. L'auteur de ce texte lamentable reconnaissait qu'il y avait une mortalité importante chez ces infortunés et que Santo Donato en avait accueilli plus que sa part ces dernières années. Beaucoup ne meurent pas de mort naturelle ni de leur intempérance. Il y a souvent des meurtres, mais la plupart du temps, le meurtrier est lui-même un de ces dégénérés. Le mobile n'est guère qu'une dispute autour d'une partie de cartes à 10 cents ou d'une bouteille de moscatel. Et le tueur, plein de remords, ne demande qu'à avouer. Or, ces derniers meurtres n'avaient pas été élucidés. Ce qui est encore plus inquiétant dans l'esprit de ce journaleux de bas étage, si toutefois il en a un, c'est l'augmentation des disparitions depuis quelques années. Bien sûr, il le reconnaît aussi, ces hommes ne sont autres que les vagabonds du siècle dernier. Ils vont et viennent. Mais certains ont disparu sans toucher le chèque du chômage ou celui du travail temporaire qui arrive tous les vendredis. Aurait-il été victime du tueur de clochards inventé par ce journaliste? Des victimes restées introuvables. Bah.
Toussander agita la main comme pour mettre en doute une telle irresponsabilité.
Ce n'est que pour émoustiller les gens, naturellement. Pour les effrayer confortablement le dimanche matin. On ressort de vieux épouvantails, usés jusqu'à la corde, mais encore utilisables. Le dépeceur de Cleveland, Zodiac. Le mystérieux Monsieur X qui a tué le Dahlia noir, Jack au talon d'acier. Des sottises. Mais cela m'a fait réfléchir.
Que peut faire d'autre un vieil homme quand ses vieux amis ne viennent plus le voir ?
Todd haussa les épaules.
Si j'avais envie d'aider cet ignoble journaleux, ce qui n'est certainement pas mon intention, je pourrais lui expliquer certaines de ses disparitions. Pas les cadavres assommés ou poignardés, pas cela. Dieu ait pitié de leur âme d'abruti, mais quelques autres. Parce que certains d'entre eux, en tout cas, sont dans ma cave.
Combien y en a ?
Demanda Todd à voix basse.
6, dit Doucander calmement. En comptant celui que tu m'as aidé à faire disparaître, 6.
Vous êtes vraiment barjot,
dit Todd. Sous ses yeux, la peau était blême et luisante.
À un moment, votre putain de tête a complètement déraillé.
Déraillé ? Quelle expression charmante ! Tu as peut-être raison, mais alors je me suis dit, ce chacal de journaliste adorerait attribuer meurtre et disparition à une seule personne, l'hypothétique tueur de clochards. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors je me suis dit encore, est-ce que je connaîtrais pas quelqu'un capable de faire des choses pareilles ? Quelqu'un qui a supporté la même tension que moi depuis quelques années ? Quelqu'un qui a lui aussi écouté de vieux fantômes secouer leurs chaînes. Et la réponse est oui. Je te connais, gamin.
Je n'ai jamais tué personne.
L'image qui lui vint ne fut pas celle des clochards. Ce n'étaient pas des gens, pas vraiment. Mais la sienne. Il se voyait, lui, accroupi derrière l'arbre mort, l'œil collé à la lunette de son 30-30. Le viseur fixé sur la tempe de l'homme à la barbe effilochée. Celui qui conduisait une camionnette de Jap.
Peut-être, répondit Doucander, plutôt aimable. Pourtant, ce soir-là, tu as très bien tenu le coup. Tu étais plus en colère que surpris d'avoir été mis en danger par la maladie d'un vieil homme, à mon avis. Je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas. Je vous en voulais, et je vous en veux toujours. Je vous ai blanchi parce que vous avez quelque chose dans un coffre qui pourrait foutre ma vie en l'air.
Non, je n'ai rien.
Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?
C'était un bluff. Tout autant que ta lettre laissée à un ami. Tu n'as jamais écrit de lettre. Tu n'as jamais eu un ami de ce genre. Et je n'ai jamais écrit un seul mot sur notre association, si j'ose dire. Maintenant, j'étale mon jeu. Tu m'as sauvé la vie. Peu importe que tu ne l'aies fait que pour te protéger, cela ne change rien à la rapidité et à l'efficacité dont tu as fait preuve. Je ne peux te faire aucun mal, gamin. Je te le dis sans regret. J'ai regardé la mort en face. Elle me fait peur, mais moins que je ne l'aurais cru. Il n'y a pas de document. C'est comme tu dis. Nous sommes quittes.
Todd sourit, une étrange torsion des lèvres vers le haut. Une lueur bizarre, sardonique, volta dans ses yeux.
Herr Doucander, si seulement je pouvais vous croire.
Le même soir, Todd descendit le talus surplombant l'autoroute jusqu'à l'arbre mort et s'assit sur le tronc. Le crépuscule venait de tomber. Il faisait bon. Les phares trouaient la nuit comme une longue rangée de pâquerettes.
Il n'y a pas de documents.
Il ne s'était pas rendu compte à quel point la situation était inextricable jusqu'à la discussion qui avait suivi. Doucander lui proposa de fouiller la maison pour trouver la clé du coffre. S'il ne trouvait rien, cela prouverait qu'il n'y avait pas de coffre et donc pas de documents. Mais on peut cacher une clé n'importe où, la mettre dans une boîte vide et l'enterrer. La mettre dans un étui de sucrète, la glisser derrière une planche qu'on replace ensuite. Il aurait même pu prendre le bus jusqu'à San Diego et la cacher derrière un des rochers du mur décoratif qui entourait la fosse aux ours. Et même, poursuivit Todd, Doucander avait aussi bien pu jeter la clé. Pourquoi pas ? Il n'en avait eu besoin qu'une fois, pour mettre le document dans le coffre. S'il mourait, quelqu'un d'autre l'en ressortirait. À regret, le vieil homme approuva, mais après une pause, il lui fit une autre suggestion. Quand il serait suffisamment rétabli pour rentrer chez lui, le gamin appellerait toutes les banques de Santo Donato. Il dirait aux employés qu'il téléphonait de la part de son grand-père. Le pauvre vieux, dirait-il, était devenu lamentablement sénile depuis 2 ans, et maintenant il avait perdu la clé de son coffre. Pire, il ne se souvenait pas dans quelle banque était ce coffre. Pouvait-il simplement regarder dans leur dossier s'il y avait un Arthur Denker, pas de deuxième prénom? Et si Todd faisait chou blanc dans toutes les banques? Todd secouait déjà la tête. D'abord parce qu'il était presque sûr qu'une histoire pareille leur donnerait des soupçons. Trop coups humains. Il croirait à une entourloupe et préviendrait la police. Et même s'ils gobaient tous cette histoire, cela ne vaudrait rien. S'il n'y avait pas de coffre au nom de Denker dans les 9 douzaines de banques de Santo Donato, cela ne voulait pas dire que Denker n'en avait pas loué un à San Diego, à LA ou dans n'importe quelle ville entre ces deux-là. À la fin, Dusander abandonna.
« Tu as réponse à tout, gamin. À tout, sauf à une question. Qu'est-ce que je gagnerais à te mentir? J'ai inventé cette histoire pour me protéger. C'était un motif. Maintenant, j'essaye de la désinventer. Que crois-tu que je puisse y gagner ?»
Laborieusement, Dusander s'appuya sur son coude.
« De plus, au point où j'en suis, pourquoi aurais-je besoin du moindre document ? Je peux détruire ton existence depuis mon lit d'hôpital, si j'en ai envie. Je peux tout déballer au premier docteur qui passe. Ce sont tous des juifs. Ils sauraient qui je suis, ou du moins qui j'étais. Mais pourquoi le ferais-je ? Tu es un bon élève. Tu as une belle carrière devant toi, à moins que tu ne deviennes négligent avec tes clochards. »
Le visage de Todd se figea.
« Je ne vous ai jamais dit... »«
Je sais. Tu n'en as jamais entendu parler. Tu n'as jamais même effleuré un cheveu de leur tête pouilleuse et pleine de croûtes. Très bien. Parfait. Je n'en parlerai plus. Seulement dis-moi, gamin, pourquoi mentirais-je là-dessus ? Nous sommes quittes, dis-tu. Moi, je te dis que nous ne pouvons l'être que si nous avons confiance l'un en l'autre. »
Maintenant, assis sur l'arbre mort au flanc du talus donnant sur l'autoroute, à regarder disparaître sans fin, comme des balles traçantes au ralenti, la file des phares anonymes, il savait bien ce dont il avait peur. Dusander parlant de confiance, voilà ce qui lui faisait peur. L'idée que le vieil homme nourrisse dans son cœur une petite flamme de pure haine envers lui, voilà aussi ce qu'il craignait. De la haine envers Todd Bowden, qui était jeune, qui avait les traits réguliers, sans rides. Todd Bowden, un élève doué qui avait devant lui toute une vie resplendissante. Mais ce qui le terrifiait encore plus, c'était que Dusander refuse de prononcer son nom. Todd, qu'est-ce que ça avait de difficile ? Même pour un vieux boche plein de fausses dents. Todd, une syllabe, facile à dire. Appuyer la langue sur le palais, ouvrir un peu les dents, ramener sa langue et ça sortait. Pourtant, Dusander l'avait toujours appelé « gamin ». Uniquement. Méprisant. Anonyme. Oui, c'était ça. Anonyme. Aussi anonyme qu'un numéro de camp de concentration. Peut-être Dusander disait-il la vérité. Non, pas peut-être, probablement. Mais il y avait ses craintes, la pire étant ce refus de prononcer son nom. Et au fond, il y avait sa propre impuissance à prendre une décision finale, définitive. Il y avait cette triste vérité. Même après avoir vu régulièrement Dusander pendant 4 ans, il ne savait toujours pas ce que le vieil homme avait dans la tête. Peut-être n'était-il pas un élève si doué que ça. Des voitures, des voitures, des voitures. Ses doigts le démangeaient. Le 30-30. Combien pourrait-il en descendre ? 3, 6, une douzaine, comme des œufs ? Et combien de milles jusqu'à Babylone ? Il n'arrêtait pas de s'agiter, mal à l'aise. En fin de compte, la vérité ne se saurait qu'à la mort de Dusander, pensa-t-il. D'ici 5 ans, peut-être avant. De 3 à 5, on aurait dit des années de prison. Todd Bowden la cour vous condamne à 3 à 5 ans de prison pour complicité avec un criminel de guerre notoire. 3 à 5 avec cauchemar et sueur froide. Tôt ou tard, Doucendeur tomberait raide mort. Alors ce serait l'attente. L'estomac noué chaque fois que le téléphone sonnerait, ou la porte d'entrée. Il n'était pas sûr de pouvoir le supporter. Ses doigts le démangeaient. Todd serra les poings et les écrasa d'un coup entre ses cuisses. La souffrance et la nausée envahirent son ventre. Il resta quelque temps roulé en boule sur le sol, à se tordre de douleur, la bouche ouverte sur un cri muet. La souffrance fut horrible, mais elle fit disparaître l'interminable défilé de ses pensées. En tout cas, pour un temps.